RFI.
Microméga, le magazine des sciences et des techniques, avec Christian Sauty et Jean-Yves Casga.
Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de Microméga. Au programme de notre magazine cette semaine, nous allons faire dans le foudroyant, puisqu'une équipe de scientifiques français, allemands et suisses sont parvenus récemment à créer des petits coups de foudre grâce à des impulsions laser dirigées vers des nuages d'orage.
Mais nous nous intéresserons également aux futurs satellites européens chargés de nous renseigner sur l'environnement de la belle planète bleue. Ils s'appelleront Sentinel, seront réalisés par Thales Alenia Space et le président de ce groupe nous en dira plus sur ces nouveaux gardiens de l'écologie.
Nous retrouverons Michel Fournier, ce très fougueux sexagénaire qui s'apprête à s'élancer en parachute depuis une montgolfière pour réaliser un grand saut. Un saut engagé à 40 km d'altitude qui fera de lui un nouveau recordman du monde de vitesse en chute libre à 1500 km/h.
Et nous évoquerons la prochaine sélection de spationautes européens, ces hommes et ces femmes exceptionnelles qui auront à travailler après 2012 au sein de la Station Spatiale Internationale. Et la sélection qui sera engagée à partir du 19 mai prochain sera impitoyable. 4 titulaires et 4 doublures seulement seront retenus sur les 50 000 candidatures attendues.
C'est une évidence, la foudre est un phénomène fascinant qui s'explique puisqu'il s'agit d'un phénomène électrique naturel, mais que nous aimerions bien dompter quand on sait les quantités d'énergie engagées par ce phénomène, une énergie dépensée en pure perte, puisque nous ne savons pas encore la domestiquer. Pas encore, mais on ne désespère pas.
Ça tombe bien, Jérôme Casparian, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur au laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire, le LASIM, un laboratoire du CNRS qui dépend de l'université Lyon 1. Vous travaillez avec d'autres chercheurs allemands et suisses à mieux comprendre scientifiquement le phénomène foudre. Et pour cela, vous utilisez un laser qui vous permet de déclencher la foudre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc c'est un laser un petit peu particulier puisqu'il produit des impulsions extrêmement brefs, des flashs qui durent seulement 100 femtosecondes, c'est-à-dire un dixième de millionième de seconde.
Ça fait pas beaucoup, oui.
Ça fait extrêmement court et ça permet de concentrer l'énergie de l'impulsion pour obtenir une puissance très, très importante, une puissance de 4 terawatts, 4 millions de millions de watts. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 1000 centrales électriques, mais pendant un très court instant.
Jérôme Casparian, mais comment ça se passe? Alors vous avez comme une sorte de canon, vous visez un nuage et puis pop, vous tirez dedans et vous attendez qu'il se passe quelque chose.
Le canon, c'est le laser qui émet donc son faisceau en direction du nuage, qui va sur son passage ioniser l'air, le rendre conducteur. Et donc ce qu'on attend, c'est que ce chemin conducteur et donc qui est un chemin plus facile pour la foudre aide la foudre à se déclencher et la guide jusqu'au sol.
Mais ça veut dire qu'une fois que vous avez tiré, donc ce très 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 bref instant avec cette énorme puissance, dans les secondes qui suivent, on voit un éclair si on est un observateur au sol?
Alors non, l'effet d'ionisation dure plus longtemps que le flash laser, mais il dure quand même un temps très bref, de l'ordre de une ou quelques microsecondes, quelques millionièmes de seconde. Alors pendant ce temps-là, l'éclair n'a pas le temps de se développer jusqu'au sol, et donc ce qu'on observe, c'est des précurseurs de la foudre, la première étape de la décharge, à savoir ce qu'on appelle une décharge couronne, qu'on connaît aussi sous le nom de feu de Saint-Elme dans le domaine de la navigation. Vous savez, ces petites flamèches bleues qu'on observe parfois au sommet des mâts des bateaux partant d'orage.
Mais Jérôme Casparian, là, vous êtes dans la phase où vous apprenez à comprendre comment ça marche. Vous êtes même un peu plus loin puisque vous arrivez à déclencher les précurseurs de la foudre. Vous pensez qu'à un moment, vous allez être le maître de l'orage, une sorte de Zeus tout-puissant ?
Quoi qu'il arrive, on ne générera pas d'éclairs en l'absence d'orage. Il s'agit bien d'aider la décharge de nuages d'orage existants et déjà chargés. On n'est pas capable de créer les charges. Et puis, avant d'être tout puissant et de maîtriser la foudre, il faut qu'on arrive à augmenter l'effet du laser et en particulier rendre l'air davantage conducteur qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc pour cela, pour obtenir une meilleure ionisation de l'air, il nous faudra un laser sur lequel on est en train de travailler qui sera 10 fois plus puissant pour générer une ionisation plus importante, donc une conductivité plus importante.
Jérôme Casparian, vous nous parliez de laser à l'instant. Parlez-nous un petit peu de ce laser TerraMobile, celui que vous utilisez. C'est le plus puissant du monde dans sa catégorie, je crois.
Oui, c'est le laser le plus puissant du monde qui soit capable de se déplacer pour des expériences de terrain. Des lasers qui émettent des impulsions ultra brèves et de très forte puissance, il y en a dans les laboratoires. Il doit y en avoir, je dirais, une dizaine en France, peut-être. Ce sont des lasers assez délicats qui travaillent dans des conditions de laboratoire bien contrôlées, propres, la température régulée, et des vibrations contrôlées. Et donc, la spécificité du laser TerraMobile, c'est d'être suffisamment compact et suffisamment robuste pour fonctionner à l'intérieur d'un conteneur qui a la dimension d'un conteneur standard comme on en voit sur les camions, pour pouvoir se déplacer sur le terrain, sur des sites intéressants comme ce site sur lequel on a fait la campagne consacrée à la foudre.
Alors, je comprends bien qu'il s'agit d'une recherche, mais à quoi ça sert ? Quelles sont les applications pratiques pour Monsieur Tout-le-Monde, Christian, moi-même ?
Alors, la première application pratique, elle est pour nous, les chercheurs, d'avoir des éclairs sur demande. C'est quelque chose qui facilitera beaucoup l'étude de la foudre. Actuellement, on sait déclencher des éclairs avec des fusées qui déroulent derrière elles un fil métallique dans lequel l'éclair va s'engouffrer. Mais c'est une technique qui n'est pas très souple puisqu'on a un nombre de fusées qui est relativement limité à disposition. Et puis, on ne peut pas viser les parties les plus actives de l'orage. Donc, avec le laser, on peut espérer faire des orages sur demande en continu pendant un orage et en visant les parties les plus actives du nuage.
Jérôme Casparian, dites-moi, je suis en train de réfléchir, là je me dis, la foudre quand même, bon c'est de l'électricité, si on peut, quand il y a des coups de foudre pendant un orage, il y a une électricité certainement énorme qui est dépensée à droite à gauche et en pure perte. On pourrait pas imaginer justement, grâce peut-être à vos travaux, un jour, canaliser tous ces coups de foudre et puis les mettre en boîte, c'est-à-dire mettre toute cette énergie dans une batterie et puis l'utiliser après pour éclairer une ville, par exemple.
Alors, en principe, pourquoi pas ? La difficulté, elle vient de la nature de la foudre, qui est extrêmement puissante, et donc les batteries et les condensateurs qu'il faudrait pour récupérer l'énergie doivent être très importants, donc très chers. Et l'autre caractéristique de la foudre, c'est que c'est un phénomène diffus, à savoir qu'il y a des orages qui tombent de manière un petit peu aléatoire un peu partout.
Ouais, mais là, vous sauriez les guider. On va se projeter dans l'avenir, dans 10, 15, 20 ans, avec vos travaux, vous aboutissez, vous devriez pouvoir, je dirais, guider quelque part les éclairs et les guider au bon endroit pour pouvoir les utiliser.
Oui, sur une distance de peut-être quelques kilomètres. La difficulté, c'est que si vous arriviez à récupérer l'énergie de l'ensemble des orages qui tombent sur la France en une année, vous auriez la production électrique d'une tranche de centrale électrique.
C'est tout ?
C'est tout. Donc c'est à la fois beaucoup, mais en même temps, c'est assez peu par rapport à l'ensemble de la surface qu'il faudrait équiper sur l'ensemble de la France.
Donc les travaux vont servir vraisemblablement à terme à éviter que la foudre ne tombe n'importe où et puis cause des dégâts ?
Voilà, en particulier pour se protéger des effets qu'on appelle les effets indirects de la foudre. La foudre a des effets qu'on appelle directs, qui sont les destructions, les déclenchements d'incendies. Et pour ça, on s'en protège avec le paratonnerre de Franklin, donc cette tige qu'on a sur le toit des maisons, et qui va canaliser le courant de la décharge jusqu'au sol. Le problème, c'est que en s'écoulant au sol, ce courant important et très bref génère des perturbations sur les réseaux électriques, génère des perturbations sur les appareils électroniques. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets indirects de la foudre et contre lequel le paratonnerre ne peut rien. Donc, ce qu'on souhaite faire à l'avenir, c'est protéger des sites particulièrement sensibles, comme des aéroports ou des centrales électriques, en déviant la foudre, en l'attirant à distance de ces installations, de manière à les protéger des effets indirects de la foudre.
Mais dites-moi, ça va intéresser énormément le centre spatial guyanais de Kourou, parce qu'on a toujours peur des risques de foudroiement d'un lanceur lorsqu'il décolle vers l'espace.
C'est effectivement une situation typique où le laser pourrait avoir une utilité de ce point de vue-là.
Eh bien, Jérôme Casparian, merci. On vous souhaite beaucoup de réussite et de succès dans vos travaux. Et puis, plaisir de vous retrouver un jour prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci. Voilà, nous étions à l'instant au cœur des nuages d'orage, ceux qui sont à l'origine des coups de foudre, et nous allons y retourner dans les nuages et même monter encore bien plus haut, puisque nous allons grimper jusqu'à 40 km d'altitude avant d'imaginer pouvoir nous élancer vers la Terre dans un scaphandre parfaitement adapté, en chute libre d'abord, puis en parachute enfin, pour pouvoir nous poser en douceur au terme d'un exploit.
Christian, là j'ai un peu de mal à suivre parce que ça c'est une description de science-fiction, parce que 40 km d'altitude doit pas rester beaucoup d'air et le type qui tombe doit commencer à aller très 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 vite,
non ? Ah bah oui absolument, c'est ce que va faire. Alors à partir du 25 mai prochain, normalement au-dessus du Canada, dans la province du Saskatchewan, un parachutiste français de 64 ans, il s'appelle Michel Fournier. On l'a déjà reçu dans Micro-Méga il y a quelque temps de cela, parce que il prévoyait déjà de faire ce grand saut, ce grand bond en 2003. Et puis bon, il y avait eu des problèmes technologiques, il y avait eu des problèmes de sponsors, il y avait eu tout ça. C'est pas évident de faire de réaliser un exploit comme cela. Et là, maintenant, cet ancien officier, il a véritablement envie de faire ce grand saut. Et alors, à travers ce grand saut, il y a 4 records du monde qui seront normalement battus. D'abord, la vitesse en chute libre, parce qu'il va descendre au départ. Il n'y a pas de résistance de l'air, puisqu'il n'y a pas d'oxygène,
ouais, alors,
pas de gaz.
Oui, mais il atteint combien, là?
Il va monter à 1500 km/h.
Christian, 1500 km/h, c'est plus vite que la vitesse du son. Comment il fait?
Que la vitesse du son, il faut qu'il y ait d'abord des molécules d'oxygène derrière. Et puis, lui, il est quand même en amont, il est avant. Le bang, il se passe légèrement au-dessus de lui. 4 records, la vitesse en chute libre. Le temps en chute libre, parce que ça va durer quand même un sacré paquet de secondes. L'altitude de saut, 40 km, effectivement, la plus haute jusqu'à présent qui a été enregistrée.
C'était 31 km.
C'était pas tout à fait. C'était Evgeny Andreev avec 24 km en 1962. Il y en a un qui a sauté de 31 km en 1960, mais ça n'a pas été homologué. Donc bon, là, il y a un petit doute.
Là, vous pinaillez.
En tout cas, Michel Fournier, lui, il a déjà le titre français du plus haut saut en parachute et il a sauté à 12 000 mètres déjà. Donc il sait ce qu'il attend, un petit peu, pas tout à fait. Et là, normalement, donc, 4 records du monde à la clé. Lui, il a 8600 sauts en parachute à son actif, donc c'est quelqu'un qui...
Oui, il sait faire.
Il sait faire, ça, il n'y a pas de souci. Il a un parrain qui n'est autre que le spationaute français Jean-François Clairvoy, qui lui aussi s'est monté très haut.
Mais alors, à quoi ça sert précisément? Parce que j'imagine, si Clairvoy se mouille dans cette histoire, c'est que ça doit avoir une utilisation. Sert à quel... C'est pas que un exploit sportif.
Déjà, il y a un exploit technologique, parce que l'exploit technologique, il est sur les combinaisons, sur beaucoup de choses, parce qu'il faut résister au froid. Quand on monte à 40 km d'altitude, il fait froid, très très froid. D'abord, et quand on monte là-haut, alors là, on monte évidemment dans une montgolfière. Mais oui.
Un ballon.
Un ballon. C'est pas un avion, parce que les avions montent pas si haut. On monte en ballon. Alors le ballon, là, il a quand même quelque chose d'impressionnant. C'est un ballon qui va être gonflé à l'hélium. 600 000 mètres cubes de volume. Il fait 161 mètres de hauteur, le ballon. C'est quand même déjà quelque chose d'énorme.
Mais il y aura des observateurs pour surveiller ce qui se passe?
Non, les observateurs, ils seront à terre et ils vérifieront plus dans les avions autour. Mais, donc ce ballon va monter jusqu'à là-haut. Il y a une nacelle. La nacelle, en fait, c'est quelque chose de parfaitement étanche, de pressurisé de la nacelle. Il va être dans une nacelle pressurisée au départ, parce que, bon, au départ, il faut pouvoir respirer, je dirais, et vivre à peu près normalement dans la nacelle. Et puis, quand il va être arrivé là-haut, à 40 km d'altitude, eh bien, tout doucement, la nacelle va être dépressurisé tout doucement. Et alors là, il sera évidemment dans le scaphandre tout, et il va ouvrir la porte, un petit peu comme une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Michel Fournier va à ce moment-là ouvrir la porte. Alors ce qu'il s'est promis de faire quand même, c'est de rester quelques instants au bord pour regarder la Terre, parce que c'est pas souvent qu'on voit la Terre depuis 40 km d'altitude. Je rappelle, 40 km d'altitude, c'est pas tout à fait l'espace comme on peut l'imaginer.
Ça commence où, l'espace? C'est 100 km.
Ah voilà, l'espace, on a dit, allez, on a fait à la louche, on a dit l'espace, c'est au-dessus de 100 km. Donc là, on va être encore dans l'atmosphère, enfin dans notre côté, dans notre partie à nous, humaine, de notre enveloppe, de notre environnement circumterrestre. Et puis là, donc, il va sauter. Il va sauter, et là, c'est là que commence véritablement le grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même des risques. Ça va aller très très vite. Il a une réserve de 42 minutes d'oxygène dans deux bouteilles.
Mais comment ça se passe? Parce que au début, donc vous disiez bien, il n'y a pas beaucoup d'air, donc il descend très très vite. Mais à un moment, il va y avoir plus d'air. Donc quand il va être freiné, il risque pas de prendre feu comme vous savez le bouclier des navettes.
Non, c'est pas assez rapide, parce qu'il faut pas oublier que les navettes, quand elles reviennent sur Terre, elles sont d'abord à 28 000 km/h.
Ah oui, ça
et, quand,
voir,
ouais. Et que les navettes présentent donc leur bouclier thermique, mais c'est le bouclier thermique qui encaisse le choc. Qui encaisse l'énergie du frottement, et ça monte à 1500 degrés. Non, là c'est totalement autre chose. D'abord, c'est l'oxygène. C'est plus il y a d'oxygène, plus ça va le freiner, et donc plus sa vitesse va décroître, et plus il va revenir dans des plages à peu près normales. Quelqu'un qui tombe en hauteur dans notre atmosphère tombe à la vitesse maximale de 250 km/h. Donc entre 1500 km/h qu'il aura à un moment plus, et puis qu'il va freiner, à un moment il va pouvoir déclencher les parachutes. 1, 2, 3, là j'avoue humblement que je ne le sais pas encore.
J'imagine que c'est tributaire des conditions météo, mais il a prévu à peu près quelle date?
Oh, après le 25 mai. Alors bon, il faut trouver effectivement la condition météo qui soit vraiment exceptionnelle et très bonne. On arrive, c'est vers juin dans cette région du Saskatchewan au Canada, ça devrait pouvoir se faire. Donc on va suivre attentivement. Je pense que nous aurons d'ailleurs Michel Fournier au téléphone prochainement. Il suffit d'écouter RFI naturellement, de temps à autre, et tout le temps, si vous le voulez bien.
On fait une pause dans Micro-Méga, c'est le journal sur Radio France Internationale. On se retrouve dans une dizaine de minutes.
Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus.